naturalité de façon beaucoup plus profonde vis-à-vis de Dieu au point de vue affectif qu'au point de vue de la connaissance. Dieu est plus proche de vous au point de vue de la connaissance. Je veux dire, Dieu est plus proche de vous au point de vue de l'amour qu'au point de vue de la connaissance. Au point de vue de la connaissance, toujours un intermédiaire. Alors voyez, si nous ne faisons pas grande attention à cette distinction de notre approche intellectuelle et de notre approche affective, si nous ne faisons pas une très grande distinction entre les exigences de la connaissance intellectuelle et les exigences de la volonté, nous faisons des confusions énormes. Parce qu'alors nous avons peur de nous laisser prendre directement par celui qui nous attire, par le Père, par Jésus, par Marie. Et nous voulons toujours un certain contrôle. Nous voulons des intermédiaires, un certain contrôle. Tandis que du côté de la connaissance, c'est normal de tout le temps comprendre que c'est par l'intermédiaire des autres que nous pouvons atteindre la réalité spirituelle. La foi ne modifie pas notre condition intellectuelle. La charité ne modifie pas notre appétit affectif selon ses exigences propres. Mais la charité permet d'atteindre immédiatement le cœur du Christ, d'atteindre immédiatement le cœur du Père et d'être uni affectivement dans cette dilection d'amour. Directement, immédiatement, dans l'exercice divin de la charité. Tandis que je ne peux pas dire que ma foi, étant une lumière divine, me permet de voir directement Dieu. Non. Je ne vois pas directement Dieu. Je vois Dieu à travers ses effets. Je vois Dieu à travers son enseignement. Je vois Dieu à travers sa conduite sur moi ou sa conduite sur l'Église. On va s'arrêter maintenant, normalement. On s'arrête 5 minutes, puisque le cours, le second cours...
3 janvier 1984, deuxième conférence.
Je lis ici les objections parce que je crois que cet article est très important, c'est-à-dire cet article 4, hein, celui que nous venons de voir. Première objection. Impossible d'aimer ce qu'on ne connaît pas, dit saint Augustin. Or, en cette vie, nous ne voyons pas Dieu à visage découvert, mais dans un miroir d'une manière obscure. Nous en sommes donc réduits à l'aimer de même. Oui, parallélisme entre la connaissance et l'amour. Ergo, neque etiam immediate eum amamus. Réponse de saint Thomas. S'il est vrai qu'il est impossible d'aimer ce que l'on ne connaît pas, il ne s'ensuit pas que l'ordre de la connaissance soit identique à celui de l'amour. La connaissance aboutit à l'amour. Dès lors, là même où finit la connaissance, c'est-à-dire dans la réalité même, connue par un autre, là aussi, l'amour peut commencer tout de suite. Ça, c'est très beau. Là où la connaissance se termine, l'amour peut commencer. La connaissance s'arrête à la réalité elle-même en tant que connue, et c'est cette réalité connue qui est source d'amour. puisque c'est elle qui m'attire. C'est l'attraction du bien, c'est ça qu'il faut toujours essayer de comprendre. La connaissance commence beaucoup plus par l'homme, on ne peut pas dire qu'il y a une attraction de la réalité. C'est le désir qu'on a de connaître, tandis que la réalité attire. Et il y a un jeu différent entre l'aspect du sujet connaissant et du sujet aimant. Le sujet connaissant est premier par rapport à la connaissance, et le sujet aimant est second par rapport à l'amour. Alors, si on voulait bien préciser, on verrait la différence entre la causalité formelle et la causalité finale. Seconde objection, celui qui est incapable d'une chose plus facile l'est a fortiori d'une chose plus difficile. Or, il est plus facile de connaître Dieu que de l'aimer, puisque celui qui s'unit au Seigneur par l'amour est un seul esprit avec lui. Et nous venons de déclarer impossible la connaissance immédiate de Dieu en cette vie. Réponse. L'amour de Dieu étant plus parfait que la connaissance de Dieu, surtout en cette vie, la présuppose donc. La connaissance ne s'arrête pas aux créatures, mais les dépasse pour atteindre une autre réalité où l'amour prend naissance et d'où il redescend par une espèce de mouvement circulaire. Ainsi, la connaissance part des créatures pour aboutir à Dieu, mais l'amour part de Dieu, fin dernière, pour descendre aux créatures. Circulus, on voit très très bien. De la créature, je remonte vers Dieu. De Dieu, je descends vers la créature. Alors, troisième objection. Le péché éloigne l'homme de Dieu. Vois, péché ont mis une séparation. Vos péchés ont mis une séparation entre vous et votre Dieu. Donc, le péché qui est dans la volonté, plus encore que dans l'intelligence, empêche plus encore que de le connaître, d'aimer Dieu sans intermédiaire. Réponse, ce n'est pas la seule connaissance, c'est la charité qui abolit l'éloignement de Dieu causé par le péché. C'est donc bien elle qui, par l'amour, rattache l'âme à Dieu même par le lien d'une union spirituelle. La charité nous relie immédiatement à Dieu, tandis que jamais la connaissance. Et ça tout simplement. Alors, l'article 6e, la modalité de l'amour. Dieu peut-il être aimé totalement ? C'est le totalitaire, hein, totalement. Alors, saint Thomas s'appuie sur le précepte de charité du Deutéronome. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ex toto corde. Donc, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Aimer Dieu de tout son cœur, hein. Cette exigence du précepte, aimer Dieu de tout son cœur. L'amour se conçoit comme tenant le milieu entre celui qui aime et celui qui est aimé. C'est comme le médium. L'amour unit celui qui aime et l'objet aimé, et la réalité aimée. La question posée peut donc avoir trois sens. Selon le premier, le mot « totalement », « totalitaire » se rapporte à l'objet aimé. Ainsi, Dieu doit être aimé totalement. Tout ce qui est en Dieu, l'homme doit l'aimer. Selon le second sens, le même mot se rapporte au sujet aimant. Ici encore, Dieu doit être aimé totalement. C'est de toutes ses forces que l'homme doit aimer Dieu. C'est tout ce qu'il a, c'est tout ce qu'il a que l'homme doit rapporter à l'amour de Dieu. Obéissant aux préceptes, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Selon le troisième sens, il s'agit d'une proportion entre le sujet et l'objet, entre l'amabilité de celui-ci et l'amour de celui-là. Et la réponse doit être négative. Une chose est aimable dans la mesure où elle est bonne. Or, Dieu, le bien infini, est donc aimable infiniment, donc d'une manière inaccessible à n'importe quelle créature, dont n'importe quelle puissance naturelle ou infuse reste nécessairement finie. Limité. Vous voyez comment saint Thomas explique ce totalitaire, hein ? Il y a trois manières de le comprendre. Objectivement, subjectivement, en fonction de la relation entre les deux. Il reprendra ces raisonnements-là quand il parle de la vision béatifique. Est-ce que nous voyons Dieu d'une façon compréhensive ? Alors, objectivement, nous devons aimer Dieu dans sa totalité. Rien en Dieu ne peut être exclu de Dieu. Tandis que quand vous aimez vos frères, vous pouvez dire « je l'aime totalitaire ». Non, parce qu'en lui, il y aura les conséquences du péché. Je ne peux pas aimer la personne humaine dans sa totalité. Puisque dans toutes les personnes humaines, il y a les conséquences du péché qui sont là, qui viennent limiter sa bonté. Donc je ne peux pas l'aimer totalitaire. Quand vous aimez votre prochain, n'oubliez pas de lui dire ça. Je t'aime beaucoup, mais pas totalement. Ah non, 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 c'est impossible. Je ne peux pas. Ex toto corde, de tout ton cœur. Non, je ne peux pas. Objectivement. Subjectivement, aimer totalement, c'est aimer avec toutes les virtualités qui sont en nous. Dieu demande de capter, d'actuer toutes nos virtualités, toutes nos capacités d'aimer. Et c'est vrai. Est-ce que le prochain nous demande de capter toutes nos virtualités d'aimer ? Oui, subjectivement, dans l'amour de charité. Et puis alors, la relation entre les deux, est-ce que nous aimons Dieu autant qu'il demande d'être aimé ? C'est la proportion. Est-ce que nous l'aimons autant qu'il demande d'être aimé ? Alors là, on est obligé de dire non. Nous ne pouvons pas aimer Dieu avec toute l'intensité qu'il demanderait d'être aimé. Puisque Dieu a une bonté infinie. Donc il demanderait d'être aimé avec une intensité infinie. Alors nous ne pouvons pas l'aimer avec cette intensité infinie. Puisque nous avons une capacité limitée d'aimer. Donc vous voyez la triple réponse, hein ? C'est intéressant parce que c'est une analyse tout simplement du texte de l'Écriture. Aimer Dieu de tout son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ou objectivement, ou subjectivement, mais pas la relation entre les deux. L'article 6, l'amour de Dieu doit-il être aimé ? Doit-il être modéré ? Ah, ça c'est très intéressant. Est-ce que la prudence intervient ? Est-ce que je dois aimer Dieu prudemment ? Vous savez bien, ça fait partie de la spiritualité de certains chrétiens. Il ne faut pas aller trop loin. Parce que si je vais un peu trop loin, je sais très bien que tout y passera. Or, par définition, c'est impossible. Donc, je ne peux pas l'aimer. Je dois l'aimer prudemment. C'est comme quand on s'approche d'un couvent. On doit être prudent, hein, parce que quand on entre dans la zone de silence, alors, hein, c'est dangereux. On sera pris par cette zone de silence et on ira jusqu'au bout. Le petit doigt dans l'engrenage. Saint Bernard affirme, le motif d'aimer Dieu, c'est Dieu. La modération à y mettre, c'est de n'en mettre point. C'est très beau comme affirmation, c'est tout à fait du Saint Bernard. Hein. Quand il dit donc, causa diligendi deum deus est. Modus sine modo diligere. Il faut le mode, mais c'est l'aimer sans mode. La prudence, c'est l'aimer sans prudence. On a le droit d'être fou dans l'amour de Dieu. C'est plus une question de prudence. La prudence regarde le point de vue des moyens. Si la prudence peut regarder aussi notre intention de vie, c'est par rapport à nous-mêmes et par rapport à telle ou telle intention de vie. Mais par rapport à une personne, on ne peut pas l'aimer prudemment. Tu sais, je t'aime beaucoup, mais prudemment. Hein, ça, c'est extraordinaire quand quelqu'un vous dit ça. Vous êtes sûr qu'il vous aime beaucoup. Je t'aime prudemment. Il ne faut pas brûler trop vite. Hein. Alors voici la raison, le raisonnement de saint Thomas. Le mode, le mot douce, hein, c'est toujours tellement difficile à comprendre ce que c'est que le mot douce. Le mode, pour employer le mot de saint Augustin, implique une certaine mesure déterminée. Le mot douce est toujours relatif à la mesure. Or, cette détermination se trouve à la fois dans ce qui est mesure et dans ce qui est mesuré, mais pas de la même façon. Ce qui est mesure la renferme essentiellement par son être même, puisqu'il lui appartient de déterminer et de modérer le reste. Dans ce qui est mesuré, la détermination vient d'une autre chose, qui est la mesure elle-même. Il est donc impossible que la chose qui mesure soit immodérée, mais la chose mesurée peut l'être, par excès ou par défaut, pour autant qu'elle ne s'ajuste pas à sa mesure. Dans le domaine de l'appétit et de l'action, c'est la faim qui sert de mesure. Car c'est elle seule qui donne leur raison d'être à nos désirs et à nos actions. La faim est donc modérée par elle-même. Ce qui est en mouvement vers elle l'est par son rapport avec elle. Dès lors, selon la remarque du philosophe, dans tous les arts, le désir de ce qui est fin n'a ni terme ni limite, mais il en va autrement de ce qui est moyen. En effet, le médecin n'a pas pour but une santé amoindrie, mais aussi parfaite qu'elle peut l'être. Quant au remède, il le restreint, n'en donnant pas autant qu'il serait possible d'en donner, mais seulement autant que la santé l'exige. Aller au-delà ou rester en deçà de cette exigence serait manquer de mesure, manquer de prudence, vous voyez, au point de vue pratique. Hein. La fin de tous les sentiments et de toutes les actions de l'homme, c'est d'aimer Dieu. car c'est par là surtout que nous atteignons la fin dernière. Ainsi donc, il ne faut pas regarder le mode dans l'amour de Dieu comme dans une chose mesurée, susceptible de trop ou de trop peu, mais comme dans la chose qui mesure, en laquelle aucun excès n'est possible, et qui, plus on se règle sur elle, plus grande est la perfection. En un mot, plus Dieu est aimé, meilleur est l'amour. Donc ça, c'est facile à comprendre. Il ne peut pas y avoir de mesure à l'égard de l'amour de Dieu. Il ne peut pas y avoir d'amour. Pourquoi ? Parce que cet amour est premier. Parce que cet amour finalise tout le reste. Si cet amour finalise tout le reste, il ne peut pas avoir de mesure. Il ne peut pas y avoir quelque chose au-delà de l'amour de Dieu. S'il ne peut pas y avoir quelque chose au-delà de l'amour de Dieu, nécessairement, tout le reste est mesuré par cet amour. Mais cet amour est à lui-même sa propre mesure. Donc, n'implique pas de caractère relatif. Quand vous êtes mesuré, vous êtes relativisé. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas de suivre quelqu'un. Parce qu'on est relativisé par lui. C'est vrai, ça. Dans tout, aussi bien dans la vie commune, hein, quand vous voyez quelqu'un en face de vous qui marche de tel pas et vous êtes derrière, et vous êtes obligé de vous mettre, à son pas, ou bien vous le dépassez, mais si vous ne pouvez pas le dépasser, n'est-ce pas ? Si c'est pas ce qu'il faut faire. Alors à ce moment-là, vous êtes obligé de vous mettre à son pas. C'est comme quand on suit un gros camion, n'est-ce pas ? On est mesuré par lui au point de vue de la vitesse. C'est très agréable, n'est-ce pas ? Relativisé. On est relativisé. Quand vous êtes seul sur une route, vous êtes à vous-même votre propre mesure. S'il n'y a pas de radar, s'il n'y a pas de gendarme, vous êtes à vous-même votre propre mesure. Et vous allez selon le rythme que vous voulez. Ce qui est merveilleux quand il s'agit de l'amour de Dieu, pas de radar, pas de gendarme, vous êtes à vous-même votre propre mesure. Et vous êtes responsable par le fait même de l'amour dont vous aimez Dieu. Tandis que dans l'exercice de la charité fraternelle, je ne dis pas la charité fraternelle vécue intérieurement, mais dans l'exercice de la charité fraternelle, vous êtes mesuré par tel style de vie, telle règle de vie, telle observance. Vous n'observez pas la charité fraternelle comme on l'exerce dans un milieu purement charismatique. La manière d'exercer la charité fraternelle qui est très particulière. Et puis il y a une autre manière d'exercer la charité fraternelle qui est dans le silence. Qui est très particulière aussi, hein, pour avoir un charismatique. C'est très particulier aussi de voir la manière. Ah, vous vous aimez comme ça. Oui, on s'aime comme ça. Ah, c'est curieux. Oui. On peut dire aussi, c'est comme celui qui a un accent. Il dit, c'est l'autre qui il dit que j'ai un accent, mais c'est lui qui en a un. Parce qu'on se mesure mutuellement de cette manière-là. Alors, l'exercice de la charité fraternelle est différent selon les différents styles de vie. Là, il est relativisé à une règle de vie. Tandis que la charité fraternelle vécue intérieurement n'est pas relativisée. C'est infini. Oui, c'est la différence entre la vie commune et la charité fraternelle. Et je vous ai déjà dit, il faut faire grande attention à de distinguer les deux. La charité fraternelle est un absolu, la vie commune ne l'est pas. C'est un style de vie, c'est une manière particulière. Alors, quand vous entrez étant derrière un gros camion, vous êtes relativisé pour toute votre vie par l'allure du gros camion, que voulez-vous ? Au point de vue vie commune, pas au point de vue de la charité, mystère de la charité. Parce que là, vous avez la possibilité de le dépasser, de faire tout ce que vous voulez intérieurement. Il faut faire ces petites distinctions. C'est très, très. Ça enlève toute espèce d'impatience. C'est curieux, ça. Quand on sait qu'on doit être relativisé, on est relativisé. Et on attend patiemment. Tandis que quand vous croyez ne pas être relativisé, ne pas devoir être relativisé, alors c'est la patience, ça gronde. Hein. C'est le drame intérieur. Article 7. Y a-t-il plus de mérite à aimer un ennemi qu'un ami? Ça, c'est très important. Faites-vous des ennemis pour avoir plus de charité, voyez, c'est d'exercer davantage la charité. Non, est-ce que c'est plus charitable, c'est plus méritoire d'aimer un ennemi que d'aimer un ami? Ce qui est meilleur est plus méritoire. Or, il est meilleur d'aimer un ami parce qu'il est meilleur d'aimer celui qui est meilleur. Et que précisément meilleur est l'ami qui nous aime que l'ennemi qui nous hait. C'est sûr, c'est du gros bon sens. Hein. Donc c'est ça l'amour. Hein. C'est pas le mérite qu'on cherche d'abord, hein. C'est la qualité de l'amour. Et le mérite est une conséquence à la qualité de l'amour. Donc il est plus méritoire d'aimer mieux un ami que d'aimer un ennemi, qu'on n'arrive jamais à aimer mieux. Parce qu'il est l'ennemi. Vous allez voir la réponse de saint Thomas, elle est très belle. C'est très intéressant ça, parce que ça enlève, vous voyez, toute cette espèce de petite dévotion quelquefois qu'il y a chez des gens. Ah, cet ennemi, je l'aime, parce que c'est beaucoup plus méritoire pour moi. Alors on aime avec beaucoup de difficultés. Et aimer facilement quelqu'un qu'on aime spontanément, on dit « Ah non, 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 c'est dangereux. » Le motif d'aimer son prochain, d'un amour de charité, c'est Dieu. Ratio diligendi, vous voyez, alors on dit motif, hein. Côté psychologique. Hein. Le motif d'aimer son prochain d'un amour de charité, c'est Dieu. Saint Thomas dit, ça c'est très typique, ratio diligendi proximum ex caritate Deus est. La raison d'aimer selon la charité son prochain, c'est Dieu. C'est pas le motif. Le motif est toujours psychologique. Hein. Oh, c'est pas toujours psychologique, c'est même jamais psychologique, là. J'aime mon prochain, j'aime ce que Dieu a mis sur ma route à cause de Dieu, dans la lumière de Dieu. Et j'essaie de les aimer dans la lumière de Dieu. Psychologiquement, ça échappe complètement à ma psychologie. Hein. C'est divin. C'est pas du tout psychologique. Tandis que si vous traduisez ça comme ça, ça reste un tout petit peu de tomber dans un point de vue psychologique. Le motif d'aimer son prochain d'un amour de charité, c'est Dieu. Vous voyez, alors c'est très dangereux, parce que psychologiquement, on fait une dualité. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de dualité. Je dois aimer mon prochain pour lui-même, et je dois l'aimer dans la lumière de Dieu. Parce que Dieu l'aime pour lui-même. Dès lors, quand on demande s'il est meilleur ou plus méritoire d'aimer un ami ou un ennemi, ces deux amours peuvent se comparer à un double point de vue, celui de l'objet, c'est-à-dire du prochain, qui est aimé, celui du motif pour lequel il est aimé, donc la raison. Je sais bien que c'est très difficile de traduire raison, ratio diligendi. On est tenté de dire motif. C'est vrai si je prends motif au niveau philosophique, c'est-à-dire ce qui détermine. Mais si je le prends au point de vue psychologique, c'est plus vrai du tout. Au premier point de vue, l'amour des amis l'emporte. Un ami étant meilleur pour nous et nous étant plus unis, et donc matière plus favorable à l'amour, dont l'acte, s'exerçant en pareille matière, est meilleur aussi. La preuve, c'est que son contraire est pire. Haïr un ami est pire que de haïr un ennemi. Ça, c'est sûr. Au second point de vue, l'amour des ennemis l'emporte pour deux raisons. La première est que l'amour des amis peut avoir un motif autre que Dieu, tandis que l'amour des ennemis, Dieu est l'unique raison. C'est évident. Et quand vous dites à quelqu'un « je t'aime uniquement à cause de Dieu », l'autre comprend très très bien. On comprend très bien. Je vous aime uniquement à cause de Dieu. Ça veut dire que en vous, il n'y a rien d'aimable. Il n'y a rien d'aimable en vous. Alors, je vous aime uniquement à cause de Dieu. On ne dit pas ça, c'est pas très charitable de dire ça. Vous pouvez dire à un ennemi, je t'aime, bien que je sais que tu es un ennemi, bien que je sais que tu as de la haine pour moi, je t'aime à cause de Dieu, à cause du Christ. Ça, c'est... Alors, on voit très bien la raison première, vous voyez, c'est une raison de pureté d'amour. C'est pas ça qu'on doit chercher en premier lieu. On doit chercher en premier lieu l'amour. On ne cherche pas en premier lieu la pureté de l'amour. Chercher la pureté de l'amour, c'est très bien, mais il faut chercher en premier lieu l'amour. La seconde est celle-ci, seconde raison. Supposer que les uns et les autres soient aimés parce qu'on aime Dieu. Cet amour de Dieu se montre plus grand lorsqu'on dilate le cœur jusqu'à faire aimer les ennemis. De même que plus ardent est le foyer dont la chaleur rayonne plus loin. Car l'amour de Dieu s'avère d'autant plus grand qu'il fait accomplir des choses plus difficiles. De même que la chaleur du feu est d'autant plus vive qu'elle est capable de brûler des matières moins combustibles. Cependant, comme un même feu agit avec plus d'intensité sur ce qui est voisin que sur ce qui est éloigné, ainsi la charité nous fait aimer nos proches plus ardemment que les autres. Dès lors, à ce point de vue spécial, l'amour des amis, considéré en lui-même, est plus ardent, plus parfait que l'amour des ennemis. Vous voyez comme saint Thomas, il tient ça, il y revient deux fois, pour bien montrer que, de fait, il faut faire attention. C'est une fameuse question, ça c'est une question très débattue, et qui dénote deux spiritualités différentes. Les uns disent, vous savez bien, qu'il faut toujours chercher ce qui est le plus difficile. Toujours. Alors, c'est très vrai que c'est plus difficile d'aimer un ennemi que d'aimer un ami. Alors, s'il faut toujours rechercher ce qui est le plus difficile, il faut rechercher d'aimer les ennemis. Alors, tournez le dos à vos amis et soyez toujours avec vos ennemis. Pour vos amis, hein, ils trouvent ça pas très très drôle. Parce qu'au fond, c'est aimer ce qui est le plus difficile. Alors, est-ce qu'on doit chercher toujours à aimer ce qui est le plus difficile? C'est là où joue la prudence éclairée par le don de conseil. Est-ce qu'on doit toujours chercher à aimer ce qui est le plus difficile? On doit chercher à aimer avec la plus grande intensité. Mais à aimer divinement. Et non pas pour des motifs humains. Alors, on comprend très bien comment, quand on aime humainement quelqu'un, profondément, on ne sait pas toujours, au juste, si on l'aime divinement. Et si on l'aime uniquement à cause de lui, humainement parlant. Alors, quand on veut vraiment que la charité fraternelle s'épanouisse, alors on est attentif à ça. Et quelquefois, on devra dire « Oui, j'ai assez aimé ceux qui étaient les plus proches, maintenant je vais essayer d'aimer aussi ceux qui sont plus éloignés. » Pour que, de fait, notre charité surnaturelle demeure toujours aussi pure dans sa ratio diligendi, dans sa raison d'aimer, qu'elle reste toujours aussi pure. Tandis qu'il y a un risque, quand on aime toujours ce qui est le plus facile, c'est qu'au bout d'un certain temps, on n'aime plus vraiment d'une façon divine. On est retombé dans des ornières. Et on n'aime plus que ce qui est humain, que ce qu'on aime humainement. Et on ne l'aime plus divinement. Vous voyez donc, c'est très très difficile là. Il n'y a pas de chose absolue. Il n'y a pas de chose absolue. Ce qu'il faut, c'est retenir le principe. C'est que plus il y a d'amour, plus il y a de mérite. Et ne dites pas, plus c'est difficile, plus il y a de mérite. C'est Suarez qui dit ça. Hein. Plus c'est difficile, plus il y a de mérite. C'est une des grandes oppositions entre Suarez et saint Thomas. Pour saint Thomas, c'est net. Plus il y a d'amour, plus il y a de mérite. Je ne cherche pas en premier lieu le mérite. Je ne crois pas du reste que c'est notre tentation. Je ne crois pas, aujourd'hui. Je ne crois pas que c'est la tentation permanente du novice de chercher toujours sa plus méritoire. Tout moins. Qu'est-ce qu'il y a? Un mérite, c'est la propriété de l'amour, c'est la conséquence de l'amour. Le mérite nous donne un droit au ciel. J'ai mérité ça pour toi. Vous savez, quand vous avez travaillé pour quelqu'un, c'est un mérite, c'est la conséquence. C'est pas directement l'amour. Donc c'est une conséquence. Et c'est une conséquence qui fera par rapport à la béatitude éternelle, par rapport à notre bonheur éternel. Alors, je crois qu'il faut bien comprendre que ce que nous devons chercher avant tout, c'est l'épanouissement de l'amour. Cet épanouissement d'amour va impliquer nécessairement comme conséquence un mérite plus grand. Mais ce n'est pas ce que nous cherchons. Et l'exercice profond de l'amour va impliquer normalement d'aimer plus ceux qui nous aiment. C'est normal. Et ce n'est pas mauvais. C'est même bon. Parce qu'il y a un épanouissement plus grand de l'amour. Mais faisons attention, étant donné notre nature humaine. Et c'est là où la prudence intervient. Étant donné notre nature humaine, nous risquons de matérialiser les grâces de Dieu. Et alors à ce moment-là, la raison d'aimer progressivement n'est plus divine, elle reste humaine. Alors nous devons à ce moment-là faire un effort pour purifier notre amour de charité fraternelle pour qu'il soit vraiment divin. Et à ce moment-là, nous devons de temps en temps, quand la Providence nous le permet, quand la Providence nous met en face d'un ennemi, arriver à l'aimer vraiment. En priant pour lui. Mais il faut. C'est quelquefois un peu héroïque, vous savez, d'aimer des ennemis. C'est du reste très bien, c'est très bon que c'est héroïque, parce que comme ça, ça exige un amour plus grand. D'aimer ceux qui, on le sait, nous ont blessés, nous ont rejetés, nous ont avilis. Il faut arriver à les aimer. Alors à ce moment-là, il est évident, et ça c'est ça ce que saint Thomas souligne là, est très très juste, dans l'amour des ennemis, il n'y a pas de danger de se matérialiser. Parce qu'on ne peut aimer un ennemi qu'en précisant qu'on l'aime à cause du Christ et pour le Christ. Donc la ratio diligendi reste très pure. Et à ce point de vue-là, c'est toujours nécessaire de revenir à aimer ses ennemis. On a tous bien dans un petit coin, n'est-ce pas, tel ou tel ennemi, c'est bien évident, c'est sûr. celui qu'on aime moins bien. Alors, ce n'est pas nécessairement un ennemi qui nous en veut à mort, n'est-ce pas, qui est là, prêt à tirer sur nous. Mais c'est un ennemi qui a un petit poignard, très bien caché, c'est-à-dire une parole particulièrement mordante. Et on sait qu'à telle ou telle occasion, il n'a pas hésité de dire beaucoup de bien de nous. Alors à ce moment-là, c'est vrai, c'est plus difficile à l'aimer. C'est plus difficile à l'aimer parce qu'on sait qu'il nous a diminué dans notre réputation, dans notre rayonnement, dans notre activité. Il a pu nous faire beaucoup de mal. Bien, il faut arriver à l'aimer. Et ça, on ne peut l'aimer que divinement. Alors, il faut demander au Saint-Esprit, quand il y a un choix, n'est-ce pas ? Quand il y a un choix, s'il vaut mieux aimer l'exercice divin de la charité à l'égard de nos frères ou à l'égard de ceux qui sont des ennemis. Voyons tout de suite l'article 8. Est-il plus méritoire d'aimer le prochain que d'aimer Dieu? Vous voyez toujours ici le méritoire, hein, on voit très très bien ça. C'est cette contrat. Ce qui fait qu'une chose est telle, et soi-même telle, et encore davantage. Or, ce qui fait que l'amour du prochain est plus méritoire, c'est seulement quand on l'aime pour l'amour de Dieu, qui est donc plus méritoire encore. Votre amour à l'égard du prochain est méritoire parce que vous l'aimez à cause de Dieu. Donc nécessairement, aimer Dieu pour lui-même, c'est plus méritoire que l'amour du prochain. C'est un bon petit raisonnement, très simple. Et c'est vrai, ça. C'est pour ça que la vie contemplative est plus méritoire que la vie active. C'est plus méritoire d'aimer Dieu, de consacrer toute son activité à aimer Dieu. Parce qu'on l'aime pour lui-même. On aime la source. Cette comparaison peut se faire de deux manières. La première consiste à considérer à part chacun des deux amours. Mais alors, il est hors de doute que l'amour de Dieu est plus méritoire. Il a droit à la récompense par lui-même. Car la suprême récompense, c'est de jouir de Dieu. C'est justement à Dieu que s'adresse le mouvement du divin amour. D'ailleurs, la promesse lui est faite, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je me manifesterai à lui. La seconde consiste à considérer d'une part l'amour de Dieu et aimer tout seul, d'autre part l'amour du prochain, mais aimer pour Dieu. Ici, l'amour du prochain inclut l'amour de Dieu, qui tout à l'heure n'excluait pas l'amour du prochain. Ce qui revient évidemment à comparer un amour de Dieu complet et parfait qui s'étend au prochain lui-même, un amour de Dieu incomplet et imparfait, oublieux de ce commandement que nous avons reçu de Dieu, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ainsi entendu, l'amour du prochain l'emporte. C'est évident. Donc c'est très simple comme raisonnement. L'amour de Dieu l'emporte sur l'amour du prochain parce que nous aimons le prochain à cause de Dieu. Et donc, si on peut aimer immédiatement la source, normalement, aimer la source, c'est l'aimer avec une plus grande intensité. Mais si maintenant je considère que l'amour du prochain implique l'amour de Dieu, et donc l'amour du prochain implique une extension plus grande, et donc c'est là où l'amour fraternel pourra s'épanouir pleinement et totalement. Et donc, cet amour du prochain qui implique l'amour de Dieu est plus grand que l'amour de Dieu tout seul, qui exclut l'amour du prochain. Alors je prends tout de suite Oui, donc là, nous avons terminé cette question. Je vais prendre la question suivante. C'est la joie, très important, la question de la joie. Je vais peut-être simplement prendre la première objection. L'apôtre saint Paul semble donner une réponse affirmative lorsqu'il préfère l'amour du prochain à celui de Dieu et qu'il s'écrie « Je souhaiterais d'être moi-même anathème, loin du Christ pour mes frères. » Cette fameuse parole qui a été reprise par des quantités de mystiques et qui est très forte. Je souhaiterais être anathème moi-même pour le salut de mes frères. Alors, réponse. La glose prétend que saint Paul aurait exprimé ce souhait avant d'être en état de grâce. Mais étant encore infidèle, que rien n'oblige à imiter. Ça, c'est la glose marginale. D'habitude, elle est pieuse, là, elle est moins. Non, c'est un peu particulier, ça. Non, n'imitez pas, mais non, c'était avant sa conversion. C'est très joli que Saint-Damas rapporte ça, je trouve ça, c'est très très joli. Il y a un petit brin, vous voyez, une petite chose quand même.